Bien, dans le cadre de cette commémoration de Yom HaZikaron, vous le savez, c'est une matinale spéciale aujourd'hui. Eh bien, on va évoquer quelque chose dont tout le monde parle, mais dont peu de gens connaissent toutes les ramifications. On va parler des syndromes post-traumatiques et de l'aide aux victimes, des attentats terroristes bien sûr, mais également aux personnes et aux soldats tombés pendant les différents conflits, puisque vous le savez que ce sont ces deux types de personnes que nous commémorons et dont nous aurons la mémoire aujourd'hui. Et pour ce faire, nous sommes en ligne avec le docteur Israël Feldman, un docteur en psychologie clinique et victimologue. Bonjour, docteur Feldman.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté de nous consacrer quelques minutes et d'apporter vos lumières sur votre domaine de compétence qui est la psychologie clinique, mais surtout aujourd'hui ce qui nous intéresse le plus, c'est la victimologie. Alors la victimologie, docteur Feldman, si vous deviez faire une définition courte et je dirais didactique, ce serait laquelle ?
Bien, c'est, en fait, la victimologie, c'est un ensemble de disciplines qui se sont regroupées. Bon, la médecine, évidemment, mais également la psychologie et le droit. Le droit, parce que les victimes ont besoin aussi, lorsqu'il y a des procès, d'obtenir justice, vous voyez. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut définir rapidement la victimologie. Ensuite, évidemment, la victimologie s'adresse aussi sur un plan historique, au plan des peuples, etc. Et donc ça touche l'histoire, la psychanalyse et puis beaucoup d'autres domaines. Mais enfin, pour revenir à ce que j'ai dit, restons-en aux trois définitions que je vous ai données.
Bien, parfait. Alors on sait qu'en Israël, la vie d'un soldat et la vie d'un citoyen israélien, bien sûr, n'a pas de prix, je dirais, rien que dans l'histoire, on voit que pour un soldat israélien qu'on veut récupérer, on est capable en Israël de libérer des centaines de prisonniers. Donc c'est dire combien la vie est importante et la vie des soldats et la vie des citoyens est importante aux yeux de la société israélienne. Et donc vous traitez les gens qui ont perdu des proches dans un conflit quel qu'il soit ou dans un attentat terroriste, mais pas que. Vous traitez également les gens qui ont survécu et qui ont ce qu'on appelle des syndromes post-traumatiques. Alors j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant, si vous le voulez bien, à ces syndromes post-traumatiques. Quels sont-ils? Quels en sont éventuellement les symptômes? Et quel est le moyen d'action que vous avez pour les résorber, voire les faire disparaître?
Oui, alors la victimologie a un pendant médical qu'on appelle la psychotraumatologie. Et la psychotraumatologie s'occupe donc de ce problème dont vous venez de parler. Alors, comment on peut définir? C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu, quelque chose d'aussi grave que la mort ou disparition d'un proche, ou bien d'avoir été lui-même blessé, ou elle-même d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes aussi, tout ça va entraîner un certain nombre de symptômes. Alors les symptômes, c'est d'abord une espèce de sidération qui fait que les gens ne sont plus du tout en phase avec la réalité. Ils ont beaucoup de problèmes de concentration, de sommeil évidemment, des idées suicidaires, et puis également une espèce de révolte, vous voyez, qui retourne contre eux. Et le problème avec les victimes comme ça, c'est que celui qui a eu un grave traumatisme risque de se retrouver de nouveau dans une situation très dangereuse, vous voyez, y compris pour les familles, hein. Alors, les situations très dangereuses, ça peut être aussi une somatisation de nouveau, c'est-à-dire se retrouver malade grave, vous voyez, comme un infarctus du myocarde, des problèmes rénaux, pulmonaires, etc. Et puis, certains vont se remettre en situation de risque. On parlera ensuite de la pratique, mais je fais très attention lorsque je suis avec des survivants comme ça, que ce soit des familles endeuyées ou des gens qui ont survécu, eh bien, je fais très attention à les mettre en garde, parce qu'inconsciemment, ils vont se mettre en risque. Alors, comment ça se fait? On pourra en parler, mais en tous les cas, ça a été chiffré par des études américaines, c'est-à-dire 70% des gens qui ont vécu un traumatisme grave peuvent se retrouver en un risque de mort. Juste un petit exemple, j'avais suivi un soldat qui avait survécu à la guerre du Liban. Et puis voilà, il était complètement traumatisé, on s'occupait de lui comme on pouvait. Et puis il a décidé de partir en Argentine. Il n'était pas argentin à la base, mais il est parti en Argentine. Et là-bas, il s'est fait écraser par une voiture. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque énorme de retomber dans le statut de victime.
Et voilà. Quand vous dites il a été écrasé par une voiture et que ça fait partie des syndromes post-traumatiques, vous sous-entendez par là qu'il a oublié de faire attention à lui-même, c'est cela ?
Oui, c'est ça. Il y a une espèce de flirt avec la mort. Bon, j'ai un autre cas, un garçon qui avait vécu, lui, 3 attentats. Et puis, il a décidé de devenir garde de nuit à Jérusalem-Est pour garder des voitures ou je ne sais plus ce que c'était, parce qu'il allait avoir un revolver, etc. En fait, il a été tué par des terroristes. Donc, pourtant, on l'avait mis en garde de ne pas prendre ce poste. Donc, il y a une espèce de fascination de la mort. Vous voyez, comme si on avait échappé, alors on peut continuer porter avec la mort.
Bien voilà, sûr. C'est une des pulsions de mort ou une volonté de prendre un risque inconsidéré en l'occurrence, alors que sans ce syndrome post-traumatique, il aurait été plus prudent. C'est cela si je résume un petit peu. D'accord. Alors, on ne peut pas, puisque vous l'évoquiez à l'instant, et l'actualité nous rattrape, Dr Feldman, on ne peut pas ne pas évoquer le cas de Itzik Sadian, qui avant-hier s'est immolé par le feu. Itzik Sadian, qui est un soldat qui a participé à la dernière opération israélienne à Gaza, bordure protectrice, c'était en 2014, et il s'est immolé par le feu hier. Ça a ému jusqu'au Premier ministre, qui d'ailleurs s'est exprimé à ce sujet. Je voulais vous poser une question peut-être un peu personnel, alors je ne sais pas si vous l'aviez traité vous-même, mais pour le thérapeute que vous êtes, est-ce que quand un soldat comme celui-là ou quand une victime, quelle qu'elle soit, fait un passage à l'acte, comment le ressentez-vous comme un échec personnel ? Quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, mais le thérapeute que vous êtes va réagir avec un sentiment de culpabilité ou comment ça se passe ça ? Ça ne doit pas être évident.
Alors bon, je n'ai pas eu à traiter ce garçon, mais effectivement, c'est un sentiment d'échec pour nous, les professionnels. Je le ressens aussi. Je vous parlais tout à l'heure de ceux qui étaient morts alors que je m'occupais d'eux. J'avoue que là aussi, j'étais dans un sentiment d'échec très important. Parce qu'effectivement, il n'y a pas plus dangereux que la vie de quelqu'un qui a survécu à un traumatisme grave. Et c'est très difficile. Moi, je crois beaucoup dans les groupes de parole. On y reviendra sans doute pour les thérapies. Mais les groupes de parole, pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu tous quelque chose de très, très difficile, vous voyez ? Et du coup, ils arrivent, les uns et les autres, à se donner des conseils, mine de rien. Et je prends un exemple rapide. Il y avait une mère qui participait à... une mère endeuillée qui participait à un groupe, et puis elle n'arrivait pas à admettre que son fils ait pu être tué. Enfin, en fait, il avait été égorgé lors de sa garde pendant ses périodes militaires. Elle n'arrivait pas à admettre ça, donc elle avait gardé sa chambre, la chambre du défunt, exactement intacte comme avant. Le problème, c'est que le mari ainsi que les autres enfants n'en pouvaient plus, parce qu'elle en avait fait un véritable musée. Or, nous étions en réunion, et tout d'un coup, je ne sais pas, ça vient peut-être de là-haut, une hirondelle est rentrée dans la pièce, et a commencé à tourner. En fait, elle s'était perdue, je ne sais pas comment elle a pu rentrer, elle s'est perdue, et finalement, elle s'est posée devant elle, le bec ouvert, et elle l'a regardée comme ça. Donc, quelqu'un a pris l'hirondelle, l'a relâchée, et tous ont dit en cœur, tu vois, ça c'est l'âme de ton fils, il faut que tu le laisses partir. Eh bien, ça lui a fait un bien fou. Elle a accepté. Et puis, du coup, la famille a pu se reconstruire, etc. Elle a enlevé ce musée dans la maison. Vous voyez, c'est un exemple. Le groupe a permis, vous voyez, qu'elle prenne conscience de tout ça. D'autres exemples sont là, évidemment, pour confirmer ce que je dis.
J'imagine. Oui. Et bon, ce sont des études statistiques, quelque part. Mais est-ce que la volonté de venir, j'ai envie de dire, vous consulter d'abord et ensuite d'accepter ou d'aller de sa propre initiative dans un groupe de parole, est-ce que c'est des démarches, je dirais, personnelles, ou bien est-ce que vous, après un attentat, ou quand je dis vous, je parle toujours de tous les médecins qui s'occupent et de tous les victimologues. Est-ce que c'est vous qui avez la démarche de contacter des survivants ou des personnes endeuillées pour leur proposer une aide? Comment ça se passe sur le terrain?
Alors, je vais d'abord parler de ma période militaire ici en Israël. Bon, comme tout immigrant, j'ai dû faire l'armée. Et rapidement, étant donné ma formation, on m'a mis dans une unité de soins aux victimes. Victimes de guerre, donc soldats et puis familles endeuillées. Et on m'a donné une liste de familles et de personnes à contacter. Donc, je devais les contacter, les visiter. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre contact avec toutes ces personnes et surtout les inviter au groupe de parole dont je parlais. Une seule personne n'a pas voulu m'a mise à la porte. Bon, tout simplement parce que j'ai dit j'étais en divorce avec mon mari. Bon, il est mort pendant les Milouim, c'est-à-dire des périodes militaires. Moi, ça me change. Bon, elle était catégorique. Mais tous les autres ont toujours accepté de venir ensuite au groupe et puis de participer. Voyez. Donc, ça c'était pour l'armée. Maintenant, pour ce qui est des victimes civiles de guerre, c'est-à-dire les gens qui sont dans les attentats, etc., qui ne sont pas militaires, il y a des organisations en Israël, des associations. Je travaille d'ailleurs avec une association à Jérusalem qui s'appelle One Family Fund et qui est spécialisée dans l'aide aux victimes d'attentats. Et là, c'est pareil. Cette association reçoit la liste des personnes ou des familles qui ont été endeuillées. Et donc, elles sont contactées par cette association, et ensuite, elles viennent, en général, assez facilement, au groupe de parole, etc. Vous voyez, donc, il faut faire la démarche, parce qu'il n'y a pas plus dangereux de laisser une victime, vous voyez, seule. Parce que là, on est sûr que, ben, vous voyez, vous avez parlé de cet exemple avec ce soldat, on est sûr que ça va mal se terminer, ça c'est sûr.
Bien.
Donc, il ne faut pas les laisser seules.
Non, mais j'imagine, et ne pas les laisser seuls, ça veut dire les entourer de manière familiale, j'imagine, mais aussi de manière sociale.
Alors, sur le plan familial, effectivement, c'est bien, mais le problème, c'est que les familles elles-mêmes sont touchées, vous voyez. Et par ailleurs, bon, il y a les amis, mais au début, ils viennent et, bon, pour aider, etc., puis après, ils se lassent, parce que une victime, c'est lourd à s'en occuper. C'est lourd parce qu'on a peur aussi pour nous. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur les psychologues qui ont eu eux-mêmes des familles, qui ont été eux-mêmes endeuillés. Donc, c'était pas simple de s'occuper de l'autre personne. Alors, on a soi-même perdu quelqu'un. Donc, c'est pas simple du tout, effectivement. Mais il faut pas les laisser seuls parce que quand une personne reste seule, elle est dans une souffrance indicible, vous voyez. Et elle ne peut pas commencer le travail de reconstruction, que ce soit le deuil pour une famille endeuillée, ou alors de se reconstruire sur le plan psychologique après ce choc terrible. Vous voyez ?
J'imagine. Est-ce que on a une idée, vous avez une idée, au niveau chiffres, quel est le pourcentage, j'ai envie de dire, c'est froid hein, ce que je vous pose comme question, je le sais, mais est-ce que vous avez une idée du taux de réussite de ces thérapies concernant les syndromes post-traumatiques ou pas ?
Alors, bon, d'abord, le nombre de familles endeuillées par la guerre et les attentats s'élève à 30 000 familles hein, depuis le début de la création de l'État d'Israël.
Bien malheureusement, donc, oui.
Voilà, pour un petit pays comme Israël, vous imaginez, c'est très lourd. Alors, les réussites, on en a beaucoup. On en a beaucoup parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que les personnes puissent renouer avec la vie de tous les jours. Évidemment, il restera toujours la cicatrice psychologique, hein. Mais elles pourront peu à peu, disons, renouer avec ce qui était leur vie précédemment. Alors, c'est pas simple parce que, comme je vous disais, il y a une période initiale de choc et qui est souvent accompagnée de déni. On n'arrive pas à croire ce qui est arrivé, que ce soit sur le plan personnel ou familial. Une forte décharge émotionnelle, très dangereuse d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des malaises cardiaques, par exemple lors de l'annonce de la mort d'un fils ou d'une fille, vous voyez. En plus, la dépression frappe aussi, je vous l'ai dit, les proches de la famille, parce que le travail de deuil est difficile à faire aussi en famille, voyez, donc une psychothérapie doit aussi s'intéresser aux familles au sens large. Enfin, la fin du deuil, pour venir à ça, il y a quand même pas mal de réussites. Les gens renouent avec leurs projets professionnels, familiaux, et encore une fois, malgré la cicatrice psychologique qui reste douloureuse, surtout lors des commémorations comme aujourd'hui. Vous voyez ? Là, effectivement, on renoue avec le traumatisme.
Bien. Alors, la fin. Dites-moi, je vous écoute.
Oui. Donc, la fin du deuil, encore une fois, c'est quand. Enfin, disons, s'en est sorti. Le plus difficile, c'est la culpabilité. Culpabilité de s'en être sorti, pour ceux qui ont été victimes elles-mêmes.
Le syndrome du survivant, en quelque sorte.
Voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, également, vécu d'inachevé pour les familles endeuillées, c'est-à-dire n'ayant pas pu continuer à donner l'amour et l'attention à la personne qui est disparue d'une manière aussi brutale.
Et, bien. Il nous reste encore 3-4 minutes. Je voulais encore évoquer deux questions avec vous, docteur Feldman.
Oui.
Est-ce qu'il est envisageable, je n'ai aucune idée de la réponse, d'avoir un travail, je dirais, en amont, c'est-à-dire plus préventif? Est-ce qu'on forme les soldats psychologiquement à ce qu'ils vont pouvoir peut-être vivre dans l'indicible, bien sûr, et aussi la population, est-ce qu'on les forme à pouvoir affronter psychologiquement des épisodes terroristes, ou bien vous n'êtes là que de manière curative?
Oui, alors il y a un problème en Israël. Il faut se rattacher à l'histoire du peuple juif pour comprendre. Les sionistes ont décidé de lever la tête, c'est-à-dire ils ne voulaient plus être des victimes. C'est pour ça qu'on appelle le jour de la Shoah, Shoah Ve'Agvura, c'est-à-dire donc comment on peut dire, Gvura, comment dire, disons le combat.
Voilà. Mmh,
donc,
tout à fait.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'atmosphère en Israël, ou la psychologie moyenne des Israéliens, c'est ça. On va pas pleurer. Il faut s'y mettre. On va se relever, etc., etc. Mais ça, c'est très dangereux, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se relever. Vous voyez, donc le travail avec les soldats, c'est très très difficile, parce que pour qu'ils acceptent de parler, par exemple, à l'assistante sociale ou au psychologue militaire, ce qu'on appelle un cabane, c'est très difficile, parce que il va paraître aux autres faible. Et risque d'être en proie à des moqueries, etc. Donc le travail en amont est très difficile, ce qui fait que beaucoup sont choqués, parce que en plus les enfants sont extrêmement gâtés en Israël, comme vous le savez.
Oui, bien
donc,
sûr.
Alors donc tout d'un coup ils se retrouvent dans une réalité comme ça terrible. Bon, si on reprend la guerre de Gaza, etc., c'est terrible de passer de rue en rue et d'immeuble en immeuble, et puis de voir tout ce qui peut se produire sur un plan traumatique. Donc ils ne sont pas préparés. Alors, on essaye, nous, les psychotraumatologues ou les victimologues, d'avoir, disons, un écho dans l'armée par rapport à ça.
Bien.
Maintenant, pour les faire.
Dites-moi, oui, je vous écoute.
Alors, non, par rapport aux familles endeuillées, etc., il y a une étude qui a été faite. En comparaison avec ce qui s'était passé le 11 septembre aux États-Unis, vous voyez, on a fait une étude aux États-Unis, on s'est rendu compte que 3 ans après, jusqu'en Californie, les gens étaient traumatisés. C'est-à-dire que 30% des Américains montraient des signes, vous voyez, de traumatisme, de psychotraumatisme à cause de l'attentat du 11 septembre. On a fait la même chose ici, en 2002-2003, il y avait 3 attentats par jour quand même en Israël. On s'est rendu compte qu'il n'y avait que 9% de la population qui était traumatisée. Alors maintenant, est-ce qu'ils admettaient ce traumatisme et les autres ne l'admettaient pas? C'est très difficile, vous voyez, à dire. Mais encore une fois, la mentalité des Israéliens, c'est on se relève et on va de l'avant.
Bien, justement, vous me tendez une passerelle pour la dernière question que je voulais vous poser. Et là, je m'adresse plutôt aux psychologues qu'aux victimologues. On sait que ce soir, après Yom HaZikaron, commence immédiatement Yom HaTzmaout. Et donc, on passe du deuil, de la tristesse, de la commémoration à la joie et à l'allégresse. Est-ce qu'il n'y a pas un côté schizophrène là-dedans? Est-ce que tout le monde le vit bien, ce passage de la tristesse à la joie de manière aussi brutale?
Je peux vous dire que les victimes le vivent très mal, très très mal. Mais encore une fois, ça correspond à ce que je vous disais, l'État d'Israël veut montrer qu'on doit se relever. Donc, il y a une journée de souvenir, c'est normal, mais immédiatement après, on doit faire la fête. Et c'est pas possible. J'ai beaucoup parlé avec les familles endeuillées ou les soldats qui avaient été comme ça traumatisés. Ils ne pouvaient pas se réjouir parce que, en plus de ça, cette journée, disons, réveillait en eux tous les traumatismes. Et tout d'un coup, il faut aller danser, il faut aller faire des brochettes, etc. C'est pas possible. Et effectivement, c'est un problème. C'est un problème. Mais là, encore une fois, on s'adresse à la mentalité israélienne, c'est-à-dire il faut se relever tout de suite. Voilà.
Eh bien, Dr Feldman, merci infiniment d'avoir consacré ces quelques minutes à notre matinale spéciale. J'espère, j'ai envie de dire que vous n'aurez un jour plus de boulot. Ça voudrait dire que tout le monde va bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'y aura plus de syndrome post-traumatique à traiter. Et je vous souhaite par avance un très, très heureux Yom Ha'atzmaout.
D'accord, merci beaucoup. Merci.
Merci à vous. À très bientôt, Dr Feldman.
À très bientôt. Au revoir. Au revoir.